France Inter. France Inter. Zoom, zoom, zen.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est samedi et le samedi, vous le savez, c'est le jour du best-of de Zoom Zoom Zen, une heure pour tout comprendre des sujets qui font débat et pour briller en société, c'est quand même ça qui est important, une heure pour apprendre dans la bonne humeur. À mes côtés, les deux chroniqueurs vedettes de Zoom Zoom Zen, bon, alors ça reste Zoom Zoom Zen, donc c'est un vedettariat limité, celle qui détecte les tendances de demain, Manon Mariani, et celui qui est décidément complètement à la rue, Quentin Lui. Le meilleur de Zoom Zoom Zen, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, comme je vous le dis chaque après-midi au moment de vous retrouver, c'est une joie de vous accueillir dans Zoom Zoom Zen pour essayer d'éclairer un mot, une expression dans l'air du temps et à travers cet éclairage, mieux comprendre notre époque en essayant de rester toujours le plus objectif possible. Ça c'est ce que je vous dis tous les jours, vous êtes si naïf. Mais si, au lieu d'être un journaliste chérissant l'indépendance et la liberté de penser, j'étais en fait un agent double, à la solde des reptiliens qui dirigent en secret le monde. Après tout, je ne suis pas complètement français, je suis né en Suisse, base arrière comme chacun sait du mouvement reptilien maçonnique. Et Cyril Lacarrière, ce rédacteur en chef aux allures débonnaires, est-il vraiment celui qu'il prétend être? Pourquoi la commission des journalistes avait-elle sagement décidé de lui retirer sa carte de presse avant de la lui réattribuer de force sous la pression de ses amis francs-maçons? Je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que très certainement, quoique officiellement retraité du FBI, Cyril continue à faire remonter des infos sensibles à Washington. Ce qui nous sauve, c'est que vu son accent, Washington ne comprend pas ce qu'il dit.
The rise of the meritocracy.
Yeah. Mais les faits sont là.
Ça allait encore. Là.
L'équipe de Zoom Zoom.
Non.
Tu viens de dire the rise of the
meritocracy. Oui, parce que je veux dire meritocracy ou démocratie.
C'est trop compliqué, évidemment, trois syllabes. Mais les faits sont là. L'équipe de Zoom Zoom Zen n'est peut-être pas celle que vous croyez. Et sous couvert de vous aider à mieux comprendre notre époque, nous travaillons peut-être chaque jour payés par les Russes. À vous désinformer, n'est-ce pas les amis? Là vous vous dites, qu'est-ce qui lui arrive à Noël? Il a fondu une durite? Non, chers auditeurs, je vous réinforme. C'est notre mot du jour, un concept né à l'extrême droite pour vous vendre l'idée que les grands médias et les partis de gouvernement ne vous disent pas tout, voire vous mentent éhontément. Zoom aujourd'hui sur la réinformation, un concept qui progresse dans notre société, notamment sur Internet et les réseaux, trouvant un terreau idéal dans le complotisme et l'alimentant en retour. Comment prospèrent ces stratégies de réinformation? Comment les repérer? Comment les contrecarrer? Comment surtout faire comprendre à ceux qui pensent qu'on leur ment, qu'on fait juste de notre mieux, nous, modestes journalistes du service public, Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et on accueille Paul Conge. Bonjour Paul.
Bonjour Cyril.
Merci. Moi c'est Mathieu. Cyril c'est lui. Alors, parce que vous avez beaucoup parlé avec Cyril Lacarrière qui a préparé l'émission certainement d'amont avec vous. C'est notre rédacteur en chef. Mais sachez, mon cher Paul, que dans ces émissions, il n'y a qu'un seul patron. Et c'est moi. Vous êtes journaliste.
C'est bien Paul.
Êtes journaliste chez Marianne. Vous travaillez sur l'extrême droite et les faits divers. Votre dernier livre en date s'appelle Les grands remplacés. C'était en 2020, audition Larqué. Alors avant de plonger dans les méandres de cette réinformation, il nous faut déjà comprendre d'où vient ce concept, qui l'a forgé. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un agent double du FBI dont la couverture de spécialiste média ne trompe personne. Il est en fait le cheval de Troie de Fox News en France. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Cyril, ce concept de réinformation, d'où ça sort?
Et figurez-vous que ça vient d'une de vos idoles de jeunesse, de ces leaders charismatiques qui vous ont donné envie de vous engager en politique. Vous étiez d'ailleurs sur la liste de sa femme, à Vitrolles, lors de sa campagne victorieuse à la fin des années 90. Tous les rêves étaient permis. C'est à Bruno Maigret qu'on doit le terme réinformation. À l'époque, il était encore au Front National, il n'avait pas encore trahi Jean-Marie Le Pen, c'était même le numéro 2 du parti. Bruno Maigret utilise donc le mot « réinformation » pour la première fois en novembre 1997. Ça se passe lors d'un colloque du FN. Maigret appelle, je le cite, à une réinformation qui gomme le stigmate des années de désinformation subie. Vous l'avez compris, c'est à l'extrême droite que ce concept prend ses racines.
Selon elle, l'extrême droite, on serait donc mal informé, Cyril.
Oui, pour elle, les médias mainstream serviraient la même propagande à tout le monde, ils cacheraient les vrais problèmes, il serait donc grand temps de réinformer les populations. C'est sur ce postulat que vont naître de très nombreux sites internet et que va prospérer la fachosphère, un mot né de la rencontre des militants d'extrême droite et des sphères numériques, réinformation, désinformation, fake news, faits alternatifs, post-vérité. C'est tout un langage qui apparaît au cours des années 2010 avec en point d'orgue l'élection de Donald Trump qui reprendra à son compte tous ces termes pour disqualifier les médias qu'il critique. D'ailleurs, en 2016, le prestigieux Oxford Dictionnaire anglais, le prestigieux dictionnaire d'Oxford fait de post-vérité son mot de l'année. 7 ans plus tard, est-ce qu'on a déjà basculé dans autre chose? Et si oui, dans quoi? Dans pire? Ou est-ce que la vérité, les faits regagnent du terrain? C'est ce qu'on va voir durant cette émission.
Merci Cyril et bisous à Bruno Maigret qui manque à la politique française. On vient de parler de Bruno Maigret, ce qui a dû d'ailleurs lui faire chaud au cœur vu que ça fait quand même 27 ans que personne à part sa femme n'a prononcé son nom. La réinformation, donc, on reste là-dessus, c'est intrinsèquement d'extrême droite, ça n'est jamais allé beaucoup plus loin. Les complotistes, avec un grand C, on n'en trouve pas à l'extrême gauche ?
On trouve des complotistes à l'extrême gauche, mais la réinformation c'est vraiment effectivement estampillé extrême droite et... Vous l'avez rappelé à l'instant, c'est Bruno Maigret qui lance le terme. Mais il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César. Ce qui lui a donné sa substance, sa consistance, c'est un autre membre du Front National de l'époque, qui s'appelle Jean-Yves Le Gallou, qui ne dit plus grand-chose aujourd'hui, mais qui en fait est un intellectuel organique de la mouvance. Et c'est lui qui a théorisé par exemple la préférence nationale pour le FN. Et c'est lui qui lance en 2003 Polémia, qui est un mouvement voilà, qui vise notamment à propager cette réinformation qui est entendue hein, comme voilà, un effort de contrecarrer la bien-pensance, le politiquement correct, les discours médiatiques dominants. Pour imposer dans la sphère de l'information les thèses d'extrême droite.
Les grands visages de la réinformation aujourd'hui en France, le visage principal c'est Éric Zemmour.
Je ne sais pas si on peut franchement l'associer à la réinformation en tant que telle, parce que la réinformation c'est vraiment, il faut comprendre que la réinformation c'est un peu la ligne éditoriale de la fachosphère. Et cette fachosphère en fait c'est une myriade de sites internet d'actualité, enfin qui se disent d'actualité, qui offrent une vision version revue et corrigée.
Une
de
vision alternative.
Alternative, en poussant les trois thèmes qui leur sont chers, à savoir l'islam, l'immigration, l'insécurité. Et on en trouve tout un tas. Vous avez F2 Souche, qui est le navire amiral, qui voilà, en fait, reprend souvent des faits divers de la presse mainstream en les retitrant de façon anxiogène et en insistant souvent sur l'origine ethnique des suspects et des mises en cause. Voilà, et vous avez toujours de la création de contenu autour de ces trois thématiques.
Alors ça, j'ai compris tout ce que vous avez dit, sauf en quoi Éric Zemmour ne fait pas partie de cette mouvance de la réinformation. Parce que lui ne se présente...
Parce que c'est un homme politique.
Oui, mais avant, c'était un journaliste.
Absolument. Mais alors, il écrivait... Alors, ça fait longtemps qu'il n'a plus une activité journalistique en tant que tel. Hein, c'était devenu surtout un éditorialiste et il participait pas en fait à tous ces à cette création de sites internet.
Mais qu'on il a s'appuyait vu, dessus.
Il s'est plus tard. Absolument. Alors pour le coup, il s'est tout à fait appuyé là-dessus. On a vu qu'il était un lecteur de F2 Souche, de Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, mais c'est pas un acteur de la réinformation.
Zoom zoom zen sur France Inter.
Désinformation ou réinformation. On continue de zoomer sur ce concept complotiste venu de l'extrême droite avec notre invité, le journaliste Paul Conge, juste après Delight, Groove is in the Heart, sur Inter.
We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. Fun.
When we're done, satisfaction of what's to come.
Was on a roll. I've been told he can't be sold. precious, just lovely and delicious.
Torso here, heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. No other rhythm where I wanna be. Come on, flowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it. Groove is in the heart.
Inter, zoom, zoom, zen.
Une désinformation sournoisement baptisée réinformation zoom aujourd'hui sur ce concept complotiste venu d'extrême droite avec justement un spécialiste de l'extrême droite, journaliste chez Marianne, Paul Conge. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des mouvements de réinformation en France concrètement? On va pas, je sais pas si on peut citer, donner des noms de sites sans leur faire de la pub, mais il faut quand même qu'on sache de quoi on parle.
Oui, d'ailleurs on peut donner des noms de sites. Si vous voulez, la mouvance de la réinformation, c'est un assemblage de sites internet qui vont à peu près dans le même sens, qui vont souvent singer les codes des sites d'actualité traditionnels.
Pour qu'on ait l'impression, nous, en tant qu'internautes, qu'on est sur un vrai site d'information.
Exactement. Ils reprennent exactement les codes du journalisme traditionnel sur Internet, sauf qu'ils en offrent une version, comme je vous disais, sélectionnée, choisie, avec leurs obsessions du moment. Ce sont souvent, en fait, des petites équipes derrière des sites Internet. Donc, vous avez F de Souche, que j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment le premier à avoir une audience folle. Il est né en 2005. Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, donc animé donc, par un vrai mouvement politique. Vous avez Boulevard Voltaire, vous avez Livre Noir, TV Liberté, qui est une vraie chaîne d'information, une web télé sur Internet, qui emploie quand même 27 salariés, avec il y a un monde fou derrière.
Ils sont financés comment, ces sites ?
Alors, c'est toute la question. Souvent, alors pour les plus gros, hein, pour les chaînes d'information, par exemple, les chaînes de réinformation, du coup, vous avez au départ une levée de fonds, ensuite des donateurs, après des recettes publicitaires. Mais pour l'essentiel de cette réinformation en ligne, qui est donc, vous pouvez compter quelques dizaines, quelques centaines de sites internet, c'est essentiellement les dons et la publicité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, en fait, pour faire fonctionner un site comme ça.
Alors, quand le site s'appelle F de Souche, pour le coup, on a beau être face à un site d'information, entre guillemets, on comprend un peu où on est. Ouais. Pour d'autres sites, c'est un peu plus sournois. Quels sont les red flags qu'il faut guetter pour, je dis red flag parce que ce sera le terme de l'émission de demain, un peu de topomo au passage, mais qu'est-ce qui doit nous alerter? Et on se dit, là, on est sur un site un peu particulier quand même.
Souvent, vous allez voir le vocabulaire employé, vous n'aurez pas une très grande neutralité dans les termes, vous ne serez pas face à des articles très objectifs. Et puis, quand vous voyez qu'en fait, 90% des contenus tournent autour des musulmans, des immigrés, ou tiennent un discours anti-gouvernement, vous avez quand même de fortes chances de vous trouver sur un site.
Certaines mauvaises langues diront qu'il y a déjà certaines chaînes info, dont une en particulier, qui ressemble un peu à ce que vous décrivez.
Il faut voir que la réinformation est vraiment... Ce qui peut la définir, c'est vraiment ses obsessions. Si vous n'avez vraiment que du contenu qui est lié en fait aux thèses d'extrême droite, vous avez de fortes chances d'y être. De toute façon, vous pouvez aussi juste taper le nom dans une barre de recherche, vous saurez assez vite de quoi il s'agit. Mais on peut donner quelques noms. Vous avez Droz Info, Brazatao, Toulouse Info, Languedoc Info. Ça s'appelle comme
Languedoc Info.
Comme ça, on dirait pas que c'est connoté extrême droite. Ça montre bien la volonté qu'il y a quand même de se dissimuler, vraiment de pas agir à visage découvert. Et ça, c'est quand même assez caractéristique.
Manon. On parle des sites internet, mais je pense aussi aux réseaux sociaux de réinformation. Je pense à Truth Social de Donald Trump. Il y en a beaucoup aussi.
Oui, parce que Évidemment, l'information, d'ailleurs toute la presse s'en rend compte, se fait sur des sites internet, mais elle se fait aussi énormément directement sur les plateformes. Donc vous avez des, qu'on pourrait appeler des influenceurs d'extrême droite, Damien Rieu au premier chef, qui était un ancien porte-parole du mouvement identitaire, qui font cette information-là directement en ligne, sur les chaînes Telegram, sur des comptes Twitter.
Qui fait partie de la campagne de Zemmour.
Absolument, et qui vont parfois se retrouver aussi sur des sites internet. Enfin, l'un n'exclut pas l'autre.
Ouais. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ces sites? Est-ce qu'il faut couper leurs sources de financement? Est-ce qu'il faut essayer de les étouffer? Ou au contraire, finalement, ça ne serait pas malin d'essayer de museler comme ça ces sites? Et la réponse, c'est le débat, et juste essayer de leur opposer des arguments. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui les avez étudiés?
Alors les museler, en fait, le fait est que ces sites-là ne commettent pas forcément d'infractions en existant. Vous pouvez... Bien sûr, et ça arrive souvent, avoir des discours racistes à l'intérieur. On l'observe parfois, mais pas toujours. Et justement, c'est là où ils sont quand même assez forts, c'est qu'ils arrivent à faire en sorte de ne pas franchir la barrière de la légalité. Si vous regardez F de Souche, finalement, c'est une revue de presse anxiogène qui ne fait que reprendre des informations qui sont parues ailleurs, mais en les tronquant, en reprenant que ce qui les intéresse.
Oui, pour terminer cette partie, c'est important de revenir pour la définition de la réinformation. Comme vous me le disiez tout à l'heure, et contrairement à ce que j'ai dans un de mes lancements, réinformation n'est pas forcément désinformation. Ça peut être des vraies infos, des infos de l'AFP, mais juste axées uniquement sur les thèmes qui les intéressent.
Oui, parce qu'en fait, certains sites, ce sont juste des fermes à contenu. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller puiser des articles qui sont parus dans la presse mainstream et qui correspondent en fait à leur vision du monde. Et en fait, par effet de cumul, vous allez avoir tout un tas de faits divers impliquant des personnes issues de l'immigration, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne vous informez que via les sites de réinformation, vous aurez de fortes chances de penser qu'il y a une guerre civile raciale en cours, que d'inavouables réseaux sont en train de gangréner l'État. Vous saurez tout des méfaits du multiculturalisme, mais vous saurez pas grand-chose du reste de l'actualité. C'est un peu monomaniaque.
Face à vous, Paul Conge, vous l'avez compris, il est en pleine reconversion professionnelle. Le moment est venu d'écouter le travail de celui qui voudrait plutôt à l'avenir qu'on regarde son travail. Focal, piqué, balance des blancs depuis qu'il a lu la photo réflexe pour les nuls, Quentin, lui, se sent pousser des ailes. Sera-t-il, comme il l'espère, la star des prochaines rencontres de la photo d'Arles?
Je vous laisse
vous faire une idée sur son Instagram. Mais en attendant cette consécration méritée, Quentin, vous continuez à arpenter les rues pour faire réagir les passants à notre thème du jour. Un thème qui les a inspirés aujourd'hui.
Vous ne croyez pas si bien dire. La première réaction que j'ai eue, c'est celle-ci.
Donc, réinformation. Alors on va s'asseoir, on va aller prendre une bière, on va discuter pendant 3 heures de ça. Là, répondre ça, voilà, en 5 minutes dans la rue.
Et ben voilà, mais si, c'est parti pour 3 heures de micro-trottoir. On chamboule toute la grille de France Inter, ce qui devrait nous amener à peu près à la moitié du téléphone sonne. Fabienne Synthèse, qui adore mon énergie débordante dans les couloirs, se fera un plaisir de récupérer l'antenne derrière.
Bien sûr, bien sûr. Calmez-vous, Quentin, calmez-vous, c'est notre première saison, on va pas se faire mal voir quand même.
Qu'est-ce que vous êtes bon élève, Mathieu. Bon, bah dans ce cas, on va tenir les timings. Pour parler réinformation, j'ai fait les sorties de bureau et c'est à la sortie d'un EHPAD que j'ai croisé Maxime, cet infirmier de 33 ans que vous avez entendu et qui a visiblement beaucoup de choses à dire. Comment il s'informe, lui, déjà?
Moi, quand je pars le matin, donc à 6h30, j'allume France Culture ou alors France Info. Toutes les 20 minutes, il y a un brief info en fait sur les grands événements qui se passent, qui sont à suivre. Après, comme toutes les stations de radio d'information, ils ont tendance à mettre les gros titres qui flashent et qui sont bien attractifs. Mais voilà, c'est la radio que je trouve la plus objective. Et j'ai aussi l'application France Info sur mon téléphone. Mais je trouve qu'elle a tendance en fait à bombarder, réinformer.
Maxime qui s'approprie notre mot du jour en mélangeant un peu la réinformation et la surinformation. Je lui demande comment nous vient une info. Est-ce qu'il pense qu'elle peut être orientée? Tout de suite, il pense à un fait marquant de notre époque.
Gros sujet d'actualité, Ukraine versus Russie. On le voit bien, enfin voilà, en Russie, on nous envoie une image de l'information qui semble très modelée, façonnée pour donner un petit peu au Kremlin une forme de gloire, de splendeur et donner du sens et limite de la vertu en fait sur l'invasion de l'Ukraine. Nous, l'OTAN va complètement défendre autre chose. Bref, très compliqué de pas prendre parti, mais se dire qu'est-ce qu'il faut en retenir.
J'arrête maintenant ces deux collègues. Elles viennent de terminer leur journée. Bonjour.
Bonjour.
Quels sont vos prénoms?
Julie, Stéphie.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
On travaille dans une agence immobilière.
Comment elles perçoivent l'information en France? Est-elle tronquée?
Je pense qu'il y a certaines infos, oui, où il y a de la manipulation. Surtout à la télé, ouais. Bah, genre BFM TV, non? Ça vous parle?
Je vois bien. Ouais.
Non, mais je trouve que, par exemple, là, les manifestations, ils vont dire qu'il y a moins de personnes alors qu'il y en a plus dans la rue. On n'est pas informé correctement, quoi. Ils disent ce qu'ils veulent à leur sauce et... Dans le sens qui les arrange.
C'est ça.
Ou dans le sens qu'on leur pousse à dire, je sais pas.
Ouais, qu'on leur pousse à dire, mais qui serait ce « on » ? On sent, avec cette seule phrase, toute la défiance que peuvent avoir certains Français envers les médias. J'arrête ce retraité maintenant. Il s'appelle Michel, il a 72 ans, il revient des courses. Je lui demande comment il s'informe de son côté.
Je regarde les informations régionales. Ouais, France 3. Et là, c'est notre région et les autres... Après.
Oui, les autres après. Bon, Michel semble avoir un avis tranché sur la place de l'info internationale. Mais alors, est-ce que nous sommes bien informés en France ?
Non, non, on n'est pas informés du tout. Il y a des fausses informations, et comme le LCI, c'est des menteurs comme tout.
Pourquoi LCI, c'est des menteurs ?
LCI, parce que c'est pas des bonnes informations, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est faux ?
Oui et non. Ils disent que toujours, qu'est-ce qu'ils disent le gouvernement, c'est tout.
Mais quels intérêts ils auraient à le faire ?
Ah bah parce que c'est le porte-monnaie. Parce que c'est lui qui le paye.
La pluie vient se mêler à ce sujet déjà compliqué. Je vais à la rencontre de ce couple qui s'abrite sous un parapluie. Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms ?
Gilles.
Magali.
Qu'est-ce que vous faites l'un et l'autre dans la vie ?
Fonctionnaire.
Infirmière.
Je vous fais dire un mot.
Réinformation.
Comment nous vient l'information ? Comment vous vous informez ?
Ah mais nous on est très classique, on regarde des médias, enfin Le Monde, Libération, donc voilà, à l'ancienne.
France Inter, Libération, Le Monde, ouais. Le Canard Enchaîné.
Classique, traditionnel, pourquoi est-ce qu'ils ont confiance ?
Enfin, moi je considère qu'il y a une certaine déontologie, donc ce qu'on nous écrit, ce qu'on nous dit dans ces médias-là est, je dirais, objectif, clair, vérifié.
Oui, moi c'est évident, hein. Dès que je trouve une information, donc j'ai une information, je vais la vérifier, je vais la confronter à des choses connues. Pour une infirmière par exemple, c'est important. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur la vaccination, donc je peux dire qu'effectivement, les fils d'infos sur Twitter, Facebook et autres, ça a été une catastrophe.
Mais alors cette défiance envers les médias, ces comptes sur les réseaux sociaux qui proposent des alternatives, d'après eux, qu'est-ce que ça raconte ?
Il y a beaucoup de gens qui, quelque part, sont un peu sortis d'une forme de système, une forme de jacquerie, de grande prise de distance par rapport à tout ce qui est traditionnel, institutionnel. Et ça conduit effectivement à des visions complotistes, une remise en cause systématique.
Le fait de ne pas être un mouton, par exemple ?
Oui, mais ce qui est absurde, parce que même en se renseignant avec des médias traditionnels, on peut se faire sa propre opinion, au contraire.
Recevoir l'information, la vérifier, croire à la déontologie, ou au contraire, imaginer que tout est faux, acheter, la lecture du mot du jour ne vous a décidément pas laissé indifférent. Vous en voilà informé ou réinformé, qui sait ?
On zoome aujourd'hui sur le concept de réinformation avec notre invité Paul Conge. On vient d'entendre dans la rue. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même une certaine défiance des Français envers les médias traditionnels. Est-ce que c'est précisément sur cette défiance que surfent les partisans de la réinformation, ceux qui ont des sites de ce type-là ou qui sont sur les réseaux ?
Oui, bien sûr. Si vous êtes un grand amateur de sites de réinformation, pardon, j'ai failli fourcher, il y a de fortes chances que vous ayez au départ déjà une vision vraiment qui discrédite les journalistes traditionnels. D'ailleurs, la réinformation prospère tout à fait là-dessus. Hein. C'est l'idée que je peux vous lire quelques mots qui ont été prononcés par une des personnes qui est le fer de lance de la réinformation. Il vous explique que les médias, ce sont les troubles d'occupation mentale qui colonisent nos esprits, que les journalistes asservissent le peuple à l'idéologie politiquement correcte, à l'idéologie cosmopolite, marchande, mondialiste. On voit bien que la défiance des médias, ça va être le terreau de la réinformation. Proposer une information alternative à celle qui est proposée par des journalistes dont on estime qu'ils relèvent d'une certaine idéologie plutôt gauchisante.
Qui est cette personne que vous citez ?
Ah pardon, j'ai cité Jean-Yves Le Gallou que je citais tout à l'heure.
Ah, c'est le fameux Jean-Yves Le Gallou.
Le fameux Jean-Yves Le Gallou qui est un des fers de lance de la réinformation en France.
Mais non.
La réinformation sans Internet, elle n'existe pas, ou justement elle arrive à s'immiscer dans les médias mainstream sans qu'on s'en rende compte ? Quand on entend les gens, on a l'impression de ça ?
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'était effectivement une forme de militantisme politique qui était un peu à la marge, mais on constate depuis les années 2010 que cette mouvance, en fait, a réussi à acquérir une sorte de pouvoir prescripteur, même jusque dans des médias grand public. Il n'est pas très rare de voir que certaines informations sorties dans des canaux de réinformation traditionnels, en fait, en sortent pour se retrouver dans, par exemple, Valeurs Actuelles, qui est un exemple parmi d'autres.
Et pour vous, Valeurs Actuelles, c'est un média réinformationniste, même si on a inventé le mot aujourd'hui ?
Non, je ne le qualifierais pas de cette façon-là. Valeurs Actuelles, c'est un hebdomadaire qui est un peu au croisement de plusieurs droites et qui, voilà, pour moi, fait un trait d'union entre l'extrême droite et la droite. Et parmi certaines sources d'informations qu'ils peuvent utiliser, il y a des militants de la réinformation.
Quentin. Michel qui nous dit LCI, ce sont des menteurs, ils disent que ce que le gouvernement leur dit de dire. Ou les deux collègues qui parlent de BFM, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça raconte ?
Bah, je suis journaliste, donc en fait ces discours-là, je les entends quand même très 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 régulièrement. On nous les oppose très fréquemment. Il y aurait des ressorts inavoués en fait qui nous animent. Il y aurait des allégeances qu'on aurait fait à des sphères occultes ou qu'on connaît pas. En fait, ça revient très très souvent. On a beaucoup de mal en fait à déconstruire ces discours-là parce que les médias sont critiquables et je pense qu'il faut une critique des médias qui soit juste, qui soit même scientifique. Hein, elle existe. Hein, il y a une sociologie de la presse qui est assez efficace là-dedans. Et ben malheureusement, pour la contrer, la meilleure façon, je pense, c'est vraiment de faire goûter du vrai journalisme, hein, de faire goûter du journalisme d'enquête et sortir de la hard news et sortir un peu de cette information en continu.
Vous le
faites,
qui
permet pas d'avoir du recul sur les événements.
Vous prenez ce temps-là pour expliquer votre métier et dans quel cadre ?
J'essaye de le faire, mais on n'a pas toujours l'occasion. Alors sur les réseaux sociaux, c'est même pas la peine parce que malheureusement, ouais, c'est pas vraiment un espace de débat très accueillant. Mais oui, il faut faire cette pédagogie-là et je pense que chaque journaliste en fait doit être un peu ambassadeur aussi de ses pratiques et de son métier. Quoi.
Parmi ces mouvements de réinformation sur Internet, certains prennent vraiment forme dans la vie. C'est le cas de la confrérie Suavelos, dont vous parlez dans votre livre Les Grands Remplacés. Mm-hmm. Ces gens qui ont quitté la France pour se retrouver entre blancs hétérosexuels dans des pays de l'Est. Oui. Qu'est-ce qu'on sait de ce genre de groupe ? Est-ce qu'ils font des émules et ça concerne vraiment combien de personnes ?
Oui, c'est vrai que dans mon livre, il y a tout un chapitre qui est consacré à ce mouvement Suavelos, alors qui s'est réintitulé, qui s'appelle Les Braves maintenant, qui est un mentor,
décidément,
qui s'appelle Daniel Conversano, qui est un idéologue d'extrême droite. Et effectivement, lui, sa grande idée, c'était de dire, bon, écoutez, la France a un problème avec l'immigration tellement grave qu'on n'arrivera jamais à faire marche arrière.
Partons.
Donc partons, régénérer la race blanche ailleurs, dans un pays qui est épargné par l'immigration. Alors lui, il s'est installé en Roumanie, et il y a plusieurs de ses adeptes qui l'ont suivi.
Andrew Tate? Je ne sais pas, en Roumanie. Il aurait pu.
Je ne sais pas s'il y a des liens entre eux. Il aurait pu. Je pense qu'il y a des liens au moins idéologiques. Mm. Et il a réussi, en fait, effectivement, à faire en sorte que plusieurs de ses adeptes quittent leur pays d'origine, donc la France, quittent leurs amis, leur famille, et s'installent à l'étranger.
C'est-à-dire la puissance du discours.
C'est ça, c'est quelque chose de très pratique. Il vous fournit pratiquement un kit clé en main pour trouver un travail, un logement, se faire des amis. Et vraiment, on est vraiment dans une espèce de communauté autonome qui fantasme un retour de la suprématie de la race blanche.
Quentin ?
Comment ils prennent ce mot réinformation, ces sites que vous mentionnez ? Est-ce qu'ils l'affichent fièrement, genre premier site de réinformation ?
Oui, puisque c'est Bruno Maigret qui l'a.
Ah, mais bien sûr. Alors,
vraiment,
il l'assume complètement. Si vous allez voir.
C'est pas un reproche, quoi.
Non, mais c'est même pas forcément négatif, hein, pour eux, c'est juste connoté. Mais vous regardez TV Liberté, par exemple, que j'étais tout à l'heure, hein, qui est une espèce de mini BFM de l'extrême droite, elle s'affiche première chaîne de réinformation.
Ouais.
Voilà, c'est totalement assumé, parce que la réinformation, finalement, ce serait l'information vertueuse.
Qu'est-ce qu'on sait des ingérences étrangères dans cette mouvance ? La chaîne russe RT a été interdite après l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'elle participait, cette chaîne, par exemple, à ce projet de réinformation ?
Oui, on peut tout à fait classer RT parmi les chaînes de réinformation. Alors, pour ce qui est des ingérences étrangères, elles sont toujours assez difficiles à déceler. On peut faire une lecture a posteriori de ces choses-là et se rendre compte qu'effectivement, dans la mouvance, on a beaucoup de sites de réinformation d'extrême droite qui sont beaucoup plus pro-russes que le reste de la presse. Quand vous regardez le média Livre Noir, qui est au départ un média d'entretien vidéo, qui est devenu un vrai site d'actualité, qui a été lancé par Eric Tegner, qui est un ancien militant LR et aussi un ancien militant FN. Lui, au départ, quand il a lancé ce média, il voulait dire aussi que par leur travail de réinformation, ils voulaient contrebalancer les reportages qui étaient trop hostiles à Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, ou trop hostiles à Vladimir Poutine. Et plus généralement, à l'extrême droite, on trouve quand même un trumpisme pro-russe beaucoup plus important que dans le reste du champ politique. C'est pas très étonnant que ça se retrouve sur ces sites-là.
Après tout, on a vu quand même chez Cyril Hanouna dernièrement sur une grande chaîne un homme mettre en avant la théorie du complot de l'adrénochrome, une drogue faite à partir du sang d'enfants destiné à des pédosatanistes qu'on connaît tous, qu'on fréquente tous, puisqu'on est dans le milieu des médias, bien sûr,
évidemment.
Et on connaît ces gens-là. Donc, on voit bien que cette réinformation, en tout cas, disons, ce complotisme, il s'instille dans des grands médias aussi, pas que sur des plateformes ouvertement de réinformation.
Ah bah, bien sûr, ouais. Il y a clairement une perméabilité et certaines émissions, pour faire scandale, pour avoir un invité un peu sulfureux, vont avoir recours à des personnes qui appartiennent soit au champ des informations, soit au champ de la réinformation. Ouais.
Quentin ?
Comment vous voyez l'avenir ? Est-ce qu'on va légiférer ? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un va dire stop, qu'on arrête de faire ça ?
Mais alors, au nom de quoi ? C'est un peu la question. Qu'est-ce qui permettrait de censurer ces sites-là ? Franchement, pas grand-chose. On a quand même des lois qui garantissent une très grande liberté d'expression. Alors, elles s'arrêtent au racisme, elles s'arrêtent à plein de choses comme ça. Mais en vrai, quand vous regardez le contenu de ces sites Internet, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas forcément illégal. Alors, vous avez des sites qui franchissent très clairement la barrière. Hein. Vous avez Démocratie Participative, qui est un site d'actualité satirique néo-nazi.
Ah oui, français. Comme son nom ne l'indique
comme
pas.
Comme son nom n'indique absolument pas. Qui, à l'intérieur, est farci de billets antisémites qui reprennent un peu l'actualité et qui est éditorialisé. Ça tombe sous le coup de la loi. Vous avez plusieurs députés qui ont essayé de l'interdire. Il s'est réfugié sur le Darknet et il réapparaît sans cesse sous de nouvelles appellations. Et on n'arrive pas vraiment à l'interdire.
Zoom Zoom Zen, le best-of se poursuit sur France Inter. Dans un instant, on parle des red flags, ces signes qui doivent nous alerter quand on commence à fréquenter quelqu'un et à un peu trop s'attacher. Jalousie, empressement, petits gestes, qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille? On va tout vous expliquer, mais juste avant, voici IBI, Juice of Mandarins, sur Inter.
My love for you, my love for you. You are the thunder, thunder in my planet. You mark my body, bruise all over my skin. My lips sharing the juice of mandarin. And in the house on the hill, I'm fascinated by how you make me feel. She breathes out and I exhale in. And now I'm high, was it all a dream?
Bonjour Camille Rocher.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes psychologue et thérapeute de couple. Si celui de Cyril tient encore, c'est grâce à vous.
Merci.
Vous êtes membre de la Société française de thérapie familiale, autrice également du livre « Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple » aux éditions Larousse. J'espère que vous avez pris un petit exemplaire. Vous pouvez toujours nous aider. Non, vous nous l'enverrez, on en a besoin. Depuis plus de 10 ans, vous tenez aussi un blog « À nous tous » où vous traitez des sujets autour du couple et de la famille. Et puis, comme vous êtes une femme décidément de votre temps, vous avez aussi une chaîne YouTube, presque 43 000 abonnés, c'est plus que nous tous réunis autour de cette table. Alors, Camille Rocher, on va surtout parler d'alerte aujourd'hui. J'ai envie qu'on commence par un mot d'encouragement, quelque chose de positif. Un coup de pouce pour les auditrices et les auditeurs d'Inter. Le conseil que vous donnez, normalement vous le facturez, mais là vous allez nous donner gratuitement, pour être heureux en couple. Le premier truc que vous donnez dans une consultation.
Alors, la première chose que j'évalue, en tout cas dans une consultation, c'est est-ce que vous êtes capable de dire non et est-ce que vous êtes capable de faire des efforts? L'un ne va pas sans l'autre. Si je fais des efforts sans être capable de dire non, c'est de la soumission. Si je dis non sans être capable de faire des efforts, c'est de la domination. Donc, il faut vraiment que les deux soient associés.
D'accord, j'espère que vous avez bien noté. Donc, déjà, moi, ça me fait beaucoup réfléchir à lui, évidemment. Alors, face à vous, oui. Il s'y connaît en red flag, il est même, selon ses ex, un red flag ambulant. Bonjour, Cyril Lacarrière.
Non.
Oui. Alors, chaque après-midi, c'est vous, Cyril, qui permettez de remonter aux origines de notre expression du jour. Si, même aujourd'hui. Alors, les red flags, d'où ça sort?
D'un signe que tout le monde connaît, le drapeau qu'on voit sur les plages. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un drapeau rouge, eh bien, on ne se baigne pas. Le drapeau rouge, c'est une alerte, c'est pour dire attention, danger. Avec Internet, le sens s'est élargi. Par exemple, on utilise des red flags pour dire ce qu'on n'aime pas, ce qu'il ne faut pas dire ou ce qu'il ne faut pas faire. Tiens, par exemple, 12 octobre 2021, le compte officiel de Twitter tweet « Je ne suis pas sur Twitter » accompagné de 20 drapeaux rouges. Manière de dire que si vous n'êtes pas sur Twitter, eh bien, vous êtes en faute. Deux jours plus tard, le compte français du Becherel tweet « Au jour d'aujourd'hui » avec 10 red flags. Car oui, Manon, on ne dit pas « Au jour d'aujourd'hui », mais en revanche, on dit bien « Jeudi en 8 ».
J'ai toujours pas compris, mais ok.
Je poursuis. Depuis, le red flag s'est immiscé un peu partout, dans nos vies amoureuses, sur les applis de rencontre, dans nos vies amicales, dans le boulot, les red flags des hommes, les red flags des femmes. C'est même devenu une chanson.
Mimi Webb. Le morceau s'appelle Red Flags et cette chère Mimi nous raconte qu'elle a eu tort de ne pas voir les drapeaux rouges de son goujat de boyfriend. Et c'est un peu le problème avec les red flags. Comment les repérer et comment prendre ses jambes à son cou, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Camille Rocher, Cyril vient de nous parler de ses tweets qui remontent à octobre 2021. Justement, en l'espace de 3 jours à l'époque, le mot « red flag » était devenu viral, plus de 1,3 million de tweets entre le 10 et le 13 octobre. Mais ce mot n'est pas qu'un phénomène sur Twitter, c'est devenu un véritable système d'alerte. Pour vous, qu'est-ce que ça symbolise l'expression « red flag » ?
Alors, je pense que c'est vraiment ce qui va faire que là, d'ailleurs c'est intéressant, c'est au moment où les gens viennent consulter. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se disent « quand je vois des choses qui me semblent insupportables, que je ne devrais pas accepter, où tout l'entourage me dit, mais là, on ne te reconnaît pas. » J'ai deux possibilités. Soit je vais consulter, soit je pars. Moi, en général, quand les gens arrivent dans mon cabinet, c'est que justement, les red flags sont tellement importants qu'il y a un moment donné, il faut qu'on y aille. Simplement, c'est déjà trop tard, souvent. Malheureusement, parce que c'est aller trop loin. Et on accepte ces red flags en se disant, c'est pas grave, ça va évoluer, je préfère prendre ça avec plutôt que de me retrouver encore seule. Mais c'est à ce moment-là où il faudrait se dire, là, il y a attention, parce que si j'attends le changement, ça veut dire que je suis pas libre dans l'engagement de mon couple. Et le changement, c'est soit maintenant, on accepte de changer tous les deux, soit je suis obligée d'avancer avec le red flag, mais je peux pas le reprocher dans 10 ans. C'est ça le problème aussi, c'est que ça manque de liberté après.
Je vois Quentin subjugué.
Non, ça dépasse, je pense, aussi le monde du couple. On a parlé d'autres domaines. Ouais. Est-ce que ça s'immisce aussi dans les discussions sur le pro, sur
Tout à fait. Sur le pro, on le voit énormément, ouais. La relation aux personnes dans la hiérarchie au-dessus de moi, voilà, on va y arriver. Ça, évidemment, dans les relations professionnelles, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes personnes qui sont dans des burn-out un peu généralisés, aussi bien au niveau pro qu'au niveau perso, parce que je n'arrive pas à prendre soin de mes besoins. Et donc, c'est pour ça que je disais, il faut savoir dire non. Mais pour ça, il faut être au courant de ses besoins.
Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, un red flag, un drapeau rouge, comment on le repère ? Quels sont les principaux signaux qu'on doit savoir interpréter chez l'autre dans une relation qui doit nous mettre la puce à l'oreille?
Alors, je crois que le premier, c'est de ne jamais se sentir écouté. Et donc, quand on a un conflit, un différend l'un et l'autre, d'avoir l'impression que l'autre est toujours gagnant dans la relation. Là où, normalement, dans le conflit, c'est de temps en temps, ok, t'as raison, de temps en temps, c'est moi. Enfin, voilà, c'est ça, la vie de couple et la relation de façon générale. Donc ça, c'est déjà une première chose, c'est de se dire, mes besoins ne sont jamais écoutés. Après, si on va plus loin, c'est d'avoir l'impression que je dois changer pour pouvoir être aimée et pour que la relation puisse marcher. Donc ça va être, et d'ailleurs ça on peut l'observer aussi de l'extérieur, un changement physique, des changements professionnels, des renoncements à tous mes besoins, à tous mes hobbies, une coupure par rapport à l'extérieur, par rapport aux amis en particulier.
Isolement social,
exactement. Tes amis sont jamais à la hauteur, ça va jamais. Tu te fais complètement influencer par tes amis. Mais t'as vu, quand tu rentres du dîner là, mais à chaque fois t'es super bizarre. Voilà, ça c'est vraiment une non-considération de ma personne et avoir la sensation que je suis jamais à la hauteur. Je suis pas capable de choisir mes amis, de choisir un bon boulot, de prendre ma place dans mon travail, d'être la bonne mère que je devrais être ou le bon père. Enfin voilà.
Là où il y a un petit flou, c'est que dans un couple, pour que ça marche, il faut aussi que chacun fasse des efforts. Donc parfois, il y a des critiques qui sont fondées de l'autre et il faut s'améliorer sur certains points. Donc c'est ça qui est un peu délicat, peut-être savoir où placer le curseur.
Complètement. Et c'est pour ça que c'est, en effet, c'est très délicat la question de la perversion narcissique quand on va à l'extrême, parce qu'en fait, il y a un moment donné où il y a les conflits qui sont légitimes dans les couples, où je ne suis pas d'accord, j'ai le droit de pas être d'accord, de donner mon avis.
C'est sain de s'engueuler dans un couple ?
Alors, je fais toujours la différence entre s'engueuler, qui est un règlement de compte, où on hausse le ton, je veux prendre un peu la domination, et le conflit, qui n'est pas s'engueuler, mais je ne vais pas lâcher tant que tu n'as pas compris mon point de vue et qu'on n'a pas trouvé une solution qui intègre mon point de vue. Mais c'est pas qu'on a le droit, c'est que le couple ne vit plus s'il n'y a pas ça, en fait.
La peur du conflit, c'est pas bon non plus, donc, du coup. Celui qui se...
Eh bah, ben, c'est souvent des personnes qui ont peur du conflit, qui se retrouvent en relation avec des personnes toxiques. Parce que la peur du conflit fait que je n'arrive pas à m'affirmer et j'ai l'impression d'être géniale en disant oui à tout, parce que grâce à moi, on n'a pas de conflit dans le couple. Mais le problème, c'est que résultat, je m'auto-proclame victime de la relation. Et je démissionne, en fait, de la relation.
Vous parlez des gens qui veulent nous changer.
Oui.
Déjà, est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que, enfin, ça, c'est une vraie question dans le couple. Souvent, ça revient. quand on veut améliorer tel ou tel point, est-ce qu'on change quelqu'un ou est-ce que si la personne, tout simplement, telle qu'elle est, ne nous convient pas, il faut tout simplement, malheureusement, quel que soit notre attachement, tourner la page?
Alors, il y a des points sur lesquels, heureusement qu'on évolue, et si on n'évolue pas, c'est qu'on stagne, et donc ça ne marche pas. Évidemment qu'on va évoluer. Simplement, je distingue les points, allez, il est jamais à l'heure, il est bordélique, il est, je sais pas, il critique facilement, tout ça, avec des points hyper importants du type, elle veut pas d'enfant, elle est hyper attachée à sa religion, et donc il faudrait que moi aussi j'adhère à sa religion. On est obligé d'être dans les familles tous les week-ends. Vous voyez, où là, d'accord, ça va venir toucher des valeurs essentielles de ma conception du couple. Là, ça devient dangereux de se mettre en couple et en se disant, il va falloir que tu changes sur ce point-là. C'est pas la même chose.
Ah non.
Les relations de couple ont quand même beaucoup changé. Est-ce que les red flags sont pas arrivés aussi avec les applications de rencontres? J'ai quand même l'impression que Tinder, c'est un nid à red flags, par exemple.
Ah bah évidemment, et c'est vrai que les réseaux sociaux ont mis aussi en évidence une espèce de perfection d'un couple où il faudrait que, enfin, si on voit par exemple Instagram, je sais pas trop quoi, c'est des couples qui ont l'impression qu'ils sont parfaits, ils sont d'accord sur tout. Donc évidemment, moi je regarde ça, je me dis, ah ouais, c'est pas du tout ce que je vis dans mon quotidien. Donc je commence à faire la liste de ce qui ne va pas. Et donc en contraste, évidemment, je me dis que là il y a plein de choses qui vont pas, qu'il faudrait changer parce que la réalité devrait être ça. Mais c'est là où c'est quand même un peu parfois un peu vicieux. Parce que, résultat, je suis toujours frustrée de ma réalité, qui est en fait le quotidien, malgré tout, de la relation de couple. Là où, au final, il faudrait juste travailler cette réalité pour l'améliorer, mais sans chercher une perfection. Ouais. Donc, les réseaux sociaux permettent une forme de libération de la parole, et ça, c'est bien. Et en même temps, eh ben, c'est un danger, parce que du coup, je me compare à quelque chose qui n'est pas une réalité.
Mais oui, c'est ça, parce que les red flags aussi sont utilisés à des fins beaucoup plus importantes, si je puis dire. Je vois, par exemple, sur les réseaux, beaucoup de femmes partagent un drapeau rouge quand elles disent, notamment pour les violences conjugales, quand elles disent, voilà, une baffe, c'est un red flag, il faut partir. Ouais. Donc c'est quand même un signe qui peut être très important aujourd'hui.
Ah bah, et je trouve ça, à la limite, ça c'est très clair, quoi. Il y a vraiment le drapeau rouge, c'est pas possible. Et c'est objectivement pas possible. Il y a vraiment une grande différence entre c'est objectivement pas possible et ce qui, pour moi, ça m'est pas possible, mais en fait, la personne n'est pas mauvaise pour autant. C'est juste qu'on est différent.
Oui, d'accord.
Et c'est vraiment deux choses très différentes. Et c'est vrai que moi, j'associe plutôt le red flag à quelque chose, c'est objectivement pas possible et je ne peux pas accepter ça.
Vous écoutez France Inter et c'est probablement la meilleure décision de votre journée. Beaucoup de questions restent encore à éclaircir, notamment Pierre Thévenoud aura-t-il pour une fois prévu une chute à sa chronique, sachant qu'il nous a envoyé ce message à 13h12. Il y a émission aujourd'hui ou pas? Le doute est hélas permis. Mais d'abord, un détour du côté des réseaux sociaux. C'est là, après tout, que le concept de Red Flag est né. Manon était là, évidemment, aux premières loges, comme toujours, son surnom, la concierge de Twitter.
Aujourd'hui, merci.
Vous avez trouvé ce petit surnom sympathique. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une star des réseaux sociaux qui est un peu votre idole.
Léna Mafouf, connue surtout avec son pseudo sur YouTube, Léna Situation. Elle a 25 ans et en plus d'être une YouTubeuse, c'est aussi une influenceuse, une businesswoman et une égérie. Elle s'est imposée aujourd'hui comme l'une des idoles de la Gen Z connectée, suivie par 4 millions de personnes sur Instagram et quasiment 3 millions sur YouTube. Sauf que Léna dérange et la jeune femme est régulièrement victime de campagnes de cyberharcèlement qui viennent polluer tout son travail. L'année dernière, elle avait carrément mis en pause sa carrière sur YouTube car elle ne pouvait plus faire face aux critiques constantes. Et ce week-end, c'est reparti. Léna fait la couverture de Elle. Elle y donne une interview où elle revient sur les vagues de haine dont elle est victime.
On m'attaque parce que je suis une jeune femme racisée avec des amis homosexuels qui a pris un peu de place dans les téléphones. Les filles comme moi ont longtemps été invisibles dans les médias traditionnels.
Une citation qui a suffi à redonner du grain à moudre à ses détracteurs sur Twitter. Le mot « racisé » a fait bondir certains qui disent ne pas se sentir représentés par la jeune femme. On l'accuse de ne jamais mettre ses origines en avant et d'en parler que quand ça l'arrange. Sauf que Léna n'a jamais caché ses origines algériennes. La preuve, elle en parle ouvertement depuis des années, comme le montre cette interview réalisée en 2020.
Est-ce que le fait de t'appeler Mafouf aussi, ça a été un frein de temps en temps ?
Bah, on va pas se mentir, je suis une jeune femme maghrébine en plus, donc forcément ça m'a fait barrière, que j'ai réussi à contourner. Je regarde un peu tout ce qui marche, oui, généralement c'est pas des Mafouf.
Comme elle le dit, son nom de famille est Mafouf, un nom dont elle est fière, sa marque s'appelle même Hôtel Mafouf. Mais cette polémique sans fond montre surtout à quel point la mentalité des réseaux français ne grandit pas, surtout quand il s'agit des femmes qui ont du succès. Car bizarrement, des polémiques autour des youtubeurs ou influenceurs hommes, on en voit peu. Eux, leurs propos ne sont pas déformés, leurs physiques ne sont pas scrutés sous le moindre détail et leurs origines ne créent pas des débats sur la place publique. Au contraire, ils ont même des hordes de fans à disposition qui viennent les défendre à la moindre incartade. Pour les femmes, c'est différent. Depuis qu'elle est sur YouTube, Léna Mafouf a été victime de cyberharcèlement en tout genre, sur sa poitrine, ses cheveux crépus, son mec, ses revenus, toute sa vie est passée au crible.
Mais j'imagine qu'elle n'est pas la seule à qui ça arrive maintenant.
Clairement pas. Avant elle, la cible préférée des réseaux était la youtubeuse Enjoy Phoenix. Comme Léna, elle était harcelée quotidiennement. Elle a même été obligée de fermer son compte Twitter. Et puis je peux aussi citer les streameuses hein, qui ont dénoncé les insultes sexistes dont elles sont victimes sur Twitch. Ça prouve que malgré tout ce qu'on pourrait imaginer, les plateformes vidéo telles que YouTube et Twitch restent essentiellement masculines. C'est pourquoi les jeunes filles ne rêvent plus d'être youtubeuses. Elles préfèrent aller sur TikTok qui résonne plus avec leur temps et leur mentalité. Là-bas, de nouveaux profils émergent, des filles plus libérées avec leur corps, leur genre ou leur sexualité. Elles y trouvent plus de soutien et moins de critiques. Mais ces vagues de haine montrent tout de même qu'en France, la réussite des jeunes femmes est toujours un sujet, en particulier les jeunes femmes entrepreneuses stars des réseaux sociaux.
Ça, c'est différent aux États-Unis.
Oui, alors là-bas, c'est même tout l'inverse. Les jeunes businesswomen sont applaudies. Par exemple, la youtubeuse Emma Chamberlain est classée parmi les personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time. La star de télé-réalité Kylie Jenner a bâti un empire avec sa marque de maquillage. Ou encore, la mannequin Emily Ratajkowski cartonne avec son podcast féministe. Heureusement, il en faut plus pour abattre Léna Situation et ses collègues. La jeune femme n'a même pas pris la peine de répondre à cette énième campagne de cyberharcèlement. Et on la comprend. Déjà parce que c'est un combat perdu d'avance. Et ensuite, parce que l'ignorance est le plus grand des mépris, surtout pour ce genre de personnes.
Merci Manon Mariani. Dans un instant, Pierre Thévenoud sera dans ce studio. Il nous dira s'il s'est déjà pris quelques alertes red flag. Mais avant, on écoute Stéphane Echer à nos cœurs solitaires sur Inter.
Tu sais d'avance que je regrette le moindre mot que je vais dire, mais je ne veux pas que tu m'arrêtes. Je pense que nous devons souffrir. Tu te tiens droite sur nos têtes. Tu viens d'avoir qu'un seul désir. Que nos cœurs solitaires soient au bout de la peine. Que le monde soit lumière. Le rideau bouge à la fenêtre, dans l'air du soir, comme un soupir. Il n'y a rien que je puisse faire, puisse le meilleur être à venir. Nom de nom, serment de piège que nous n'avons pas vu venir. Que nos cœurs solitaires soient au bout de la peine. Que le monde
Inter.
Il vient tout juste de nous rejoindre en studio. Il a glissé à l'oreille de Manon son traditionnel.
Ah, elle était super, ta chronique, Manon.
Pierre Stévenou est dans la place. Bonjour, mon Pierrot.
Putain. Bon, bonjour. Bon, ben, c'est parti pour le comique. Allez, direct, on attaque le sujet du jour. Red flag, hein, c'est de l'américain. Ça veut dire, en gros, quand tu rencontres quelqu'un, il y a certains comportements, si tu les repères, faut se barrer, ça sent le zinzin, quoi.
C'est un bon résumé.
Petit exemple au hasard, t'es embauché pour faire une chronique à la radio, et ton rédacteur en chef, sur sa chemise, il a un petit pins pétain forever. Là, déjà, normalement, tu commences à un peu douter. Mais tu te dis, bon, passons. Puis un matin, il arrive en salle de réunion. Et Pierre, tu connais la différence entre un juif et une patate douce? Ok. Fin de collaboration, il faut partir vite et loin.
Quel délire.
Et t'es resté.
Et je suis resté. Ces histoires de red flag, ça s'applique surtout aux rencontres amoureuses. Là, j'ai eu une période d'application de rencontres. Putain, en préparant l'émission, j'ai retrouvé des choses que j'aurais jamais voulu revoir, des souvenirs que j'avais enfouis au fond de ma mémoire. J'ai retrouvé des captures d'écran de mon profil Tinder que j'avais il y a genre 8 ans, quoi.
Voilà.
Je te jure, j'ai envie de m'auto-taser, quoi. Scandaleux. La photo de profil, c'est moi en Thaïlande qui tire à la mitraillette M16. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai fait cette activité, quoi. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je choisisse ça comme photo de profil, quoi. Je suis sûr qu'à l'époque, j'étais trop fier de moi. Et si je mets une photo avec un gros flingue, ça va attirer les meufs, je suis un putain de BG. Tu te doutes que le taux de réussite était pas dingue. Hein. C'était pas du gros pourcentage, c'est du poutou. Mais quand même, j'ai obtenu quelques rendez-vous. Et ces femmes qui sont venues en rendez-vous avec moi, merci. Ah, merci, vraiment, mais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes aussi, quoi. Quand vous avez vu mon profil, vous êtes dit, oh, le mec à la mitraillette, trop envie d'aller boire un coup avec. Quoi. Je pense que j'étais pas du premier choix. Hein. Je suis lucide, c'était vraiment fin des soldes, il reste que moi. Quoi. Alors attention, il y avait d'autres photos. Sur la deuxième, j'ai un t-shirt Vodka Connecting People. Illégal, hein, normalement. Chaîne en argent autour du cou, bien sûr. Il y a eu une période où vraiment, je pense que je suis passé à deux doigts du tatouage tribal. Ça s'est joué à rien, quoi. Et le pire, je crois, c'était la description que j'avais mis en dessous. Tocard ultime, hein. C'était un truc genre Pierre, 25 ans, artiste. Artiste, hein. Je venais juste de commencer le stand-up, j'avais dû prendre 3 bits dans une cave, j'étais l'humoriste le plus claqué de Paris, mais j'ai mis artiste. Surtout que bon, même aujourd'hui, je fais des jeux de mots à la radio et je me fous de la gueule des gars qui font des micro-trottoirs, pas grand-chose d'artistique. Et écoute la petite description, toute en subtilité que j'avais mise. Surtout là pour m'amuser et profiter de la vie.
Ah hein,
sous-entendu, viens on ken.
J'ai honte.
Si aujourd'hui je faisais des rendez-vous Tinder, ça serait la galère. Rien qu'expliquer ma situation d'humoriste pas trop connu, qui bosse sur une radio connue, mais dans une émission diffusée à 16h le mardi.
Oh
compliqué, hein, les discussions pendant le date, ça va être gênant. Alors moi, bah, je suis humoriste sur France Inter. Hein, pas chez Nagui, non pas chez Salamé non plus. Non, c'est pas un prime time, c'est diffusé à l'heure du goûter. Voilà, c'est une petite émission sans prétention, mais qui en veut, voilà. Non, c'est une vraie émission, ça s'appelle Zoom Zoom Zen. Ben reviens, putain, qu'est-ce que c'est ça, ça. Allez, arrête Mathieu d'espérer naïvement une chute chaque semaine, tu fais du mal pour rien. C'est fini la chronique.
C'est
à bientôt tout le monde. En spectacle partout en France,
oui,
Paris,
oui,
tout ça.
Voilà. Paris, tout ça, on voit la précision du type quand même. Achetez-vous une attachée de presse. Merci Pierre Thévenoud, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et toujours effectivement en tournée dans toute la France et spécialement du côté du canal Saint-Martin où il sait qu'il a une chance de croiser Manon.
Oh,
et voilà, un couple de plus torpillé, deux clients de gagnés pour vous, Camille Rocher. Merci de nous avoir éclairé sur cette notion de red flag. Est-ce qu'on peut s'attribuer un red flag à soi-même? Est-ce que c'est important aussi, quand vous dites qu'il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir aussi quels sont ses défauts? J'imagine que c'est important dans la thérapie de couple.
Ah bah bien sûr, et en général c'est justement ce qu'on veut cacher au début de la relation pour être sûr d'être choisi malgré ça. Et ça va être justement le point sur lequel il va falloir qu'on fasse des efforts, même si personne n'aime ce terme-là.
Zoom, zoom, zen.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce meilleur de Zoom Zoom Zen. On se retrouve lundi, on parlera liberté d'expression. Est-ce qu'elle est menacée, cette liberté? Si oui, par qui? Ou au contraire, est-ce qu'elle n'est pas source de quelques débordements? Pour tout comprendre, rendez-vous lundi 16h sur France Inter.